Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans le numéro 108 de la publication eWeek. C'est une compilation assez fascinante qui nous donne une image du Maroc et du monde en ce 6 décembre 2025.
Oui, et notre but, c'est un peu de défricher tout ça, de voir ce qui se dessine.
Exactement. Et ce qui frappe tout de suite, c'est une sorte de tension permanente, un paradoxe qui est soulevé dès l'éditorial. On va essayer de voir ensemble comment le Maroc gère des impératifs qui semblent parfois contradictoires.
Tout à fait. C'est un peu comme regarder une machine complexe. Vous avez le moteur de l'économie qui tourne à plein régime, la diplomatie aussi.
Oui.
Et puis à côté, le moteur social, lui, il avance beaucoup plus prudemment. Et la question, c'est de savoir si l'ensemble peut avancer sans se gripper.
Alors, partons de là, justement. Ce paradoxe central. Le gouvernement prend deux décisions presque en même temps. Et c'est assez interpellant. D'un côté, une baisse massive des droits de douane sur les smartphones.
Et de l'autre, un refus net d'augmenter les taxes sur les cigarettes électroniques.
Voilà. Présenté comme ça, on se dit, ça n'a pas vraiment de sens.
C'est vrai que ça peut paraître incohérent, mais si on creuse un peu, on voit qu'il y a une logique derrière. Une logique, qui nous en dit long sur les priorités du pays.
Explosons ça. Pour les smartphones, la taxe d'importation passe de 17,5% à juste 2,5%. L'objectif officiel, c'est de combattre le marché noir. Mais ce qui marque, c'est la formule utilisée.
Laquelle ?
Il parle de la connectivité comme d'un droit fonctionnel. C'est fort comme terme. On n'est plus sur un produit de luxe, mais sur un outil de base, presque comme l'eau ou l'électricité.
Absolument. Le smartphone, c'est le portefeuille, c'est le bureau, c'est l'école. Le message est clair, hein. La priorité absolue, c'est de brancher tout le monde à l'économie numérique. C'est un pari, en fait. Un pari sur la croissance par le numérique.
Exactement. Et pour ça, il faut que l'outil de base, le smartphone, soit le plus accessible possible.
Mais c'est là que la deuxième décision est troublante. En même temps, le gouvernement, par la voix de Fouzi Lekja, dit non à une hausse de la taxe sur le vapotage. Et ça, alors même que la consommation explose chez les jeunes.
Oui, et l'argument est intéressant. Il dit que si on taxe trop, tout bascule dans la contrebande. Et là, on perd le contrôle sanitaire et les revenus fiscaux. Sa formule, c'est qu'il vaut mieux un vapotage contrôlé et taxé qu'un vapotage incontrôlé et trafiqué.
Et voilà, le paradoxe, c'est clair. Ce n'est pas une question morale, c'est du pur calcul pragmatique. D'un côté, on subventionne presque une technologie jugée vitale.
Et de l'autre, on ne freine pas une pratique à risque pour garder le contrôle du marché et les rentrées d'argent.
C'est ça. L'éditorial parle de prudence fiscale plutôt que d'audace sanitaire. La stabilité du budget de l'État passe avant le principe de précaution.
Mais appeler ça du pragmatisme, c'est pas un peu un euphémisme? Surtout quand on lit juste à côté que le Royaume-Uni, lui, s'apprête à interdire les cigarettes électroniques jetables. C'est pas la même approche, quoi.
Pas du tout. On a vraiment deux philosophies. La britannique qui dit « le risque est trop grand, on coupe ». Et la marocaine qui dit « la réalité économique est ce qu'elle est, on ne peut pas interdire, alors on va essayer de contrôler ». C'est un choix.
C'est un choix politique fort, oui, qui privilégie la modernisation visible et l'équilibre à court terme.
Et cette obsession de la connexion, de l'ouverture, elle n'est pas que pour l'intérieur. C'est vraiment le fil conducteur de toute la stratégie du Maroc à l'international.
Oui, l'idée c'est de rendre le pays incontournable, physiquement et diplomatiquement. Commençons par le physique, le hardware si on veut. Il y a deux nouvelles qui sortaient du lot. D'abord, Royal Air Maroc. Ils annoncent une ligne directe Casablanca-Los Angeles pour juin 2026.
Ah oui, c'est une première historique.
La toute première liaison entre l'Afrique et la côte ouest américaine. C'est plus qu'une simple ligne aérienne, c'est un symbole.
Oh, bien plus qu'un symbole. On parle de se brancher directement à la 100e économie du monde, si on considère la Californie comme un pays. C'est un lien direct avec la Silicon Valley, avec Hollywood.
Avec les flux d'innovation de capitaux.
Voilà. Casablanca se positionne comme la porte d'entrée et de sortie pour tout le continent africain vers ce pôle mondial.
Et en parallèle de cette stratégie aérienne, il y a la stratégie maritime. L'opérateur Marsa Maroc, qui est maintenant quatrième en Afrique, Tangemed, Casablanca, Agadir, ça tourne déjà très bien.
Et on nous parle d'une croissance exponentielle avec l'ouverture prochaine de Nador Westmed.
Donc on a les airs, on a les mers, c'est une stratégie à 360 degrés pour devenir indispensable, physiquement.
Exactement. C'est une vision intégrée, l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui arrive par bateau à Tangier-Med est redistribué par avion, et inversement, le Maroc se construit comme un carrefour.
Un carrefour, c'est le mot. Et ce hardware est soutenu par un software diplomatique hyperactif. On entre dans le soft power.
Oui, et les exemples sont nombreux.
Il est la diplomatie de l'eau, par exemple. À Marrakech, le Maroc se présente en leader. Il partage son expertise avec des pays comme le Soudan.
Ce qui est très malin. Transformer une faiblesse, le stress hydrique, en un atout diplomatique, le message, c'est « on a eu ce problème avant vous, on peut vous aider ». C'est très puissant comme levier d'influence.
On voit la même logique sur le plan sécuritaire. Gérald Darmanin qui salue l'extradition de deux fugitifs.
Signe d'une coopération qui fonctionne.
Ou encore les 14 accords signés avec l'Espagne, le soutien des pays du Golfe sur le Sahara. Comment tout ça s'articule? Ça s'articule autour d'une idée simple, la fiabilité. Dans un monde qui est de plus en plus imprévisible, le Maroc veut être le partenaire fiable.
Exactement. Fiable pour la sécurité, fiable pour la stabilité régionale, fiable pour l'expertise. Cette fiabilité devient sa monnaie d'échange principale sur la scène internationale. D'accord. Donc si on résume, l'image projetée vers l'extérieur, c'est celle d'un pays en plein boom, stratégique, connecté. Mais quand on regarde vers l'intérieur, le tableau est beaucoup plus nuancé.
C'est inévitable. Une transformation aussi rapide, ça crée des frictions, ça met en lumière des faiblesses. La vitrine est une chose, le quotidien des gens en est une autre.
Et ces frictions, on les voit. La rubrique flop de la semaine, et elle est dure, hein. Près de 29 000 cas de violence envers les femmes en un an.
C'est un chiffre énorme.
Et presque la moitié, 47%, c'est de la violence psychologique, la plus insidieuse. On a l'impression d'un décalage total entre le Maroc, qui se rêve en leader de l'IA, et ça. C'est le cœur de la tension, justement. Ça montre que la modernisation des infrastructures, ça ne modernise pas automatiquement les mentalités. C'est un rappel que le progrès économique et le progrès social, ce sont deux choses différentes.
Dans le même domaine, il y a une note un peu plus encourageante sur les mariages de mineurs. Les chiffres baissent.
Oui, la baisse est très nette. C'est encourageant. Ça prouve qu'une action ciblée peut marcher.
On passe de 26 000 cas en 2017 à moins de 9 000 en 2024. Mais ça reste 9 000. C'est pas une victoire.
Non. Et l'article précise que le problème reste très présent dans les zones rurales, ce qui nous amène à une autre fracture.
La fracture territoriale, qui s'ajoute à d'autres faiblesses, la sécurité alimentaire par exemple. Le Maroc est classé comme un importateur majeur de céréales.
Une dépendance structurelle, oui, aggravée par les sécheresses. Et c'est décrit comme un enjeu de stabilité sociale. Le contraste est fou, hein. On construit des ports ultra-modernes pour importer du blé et nourrir la population. Et c'est là qu'on voit que tout est lié. L'efficacité du port de Tangier-Med, c'est pas juste de l'économie, c'est de la sécurité nationale. La capacité à décharger et distribuer ce blé, c'est ce qui maintient la paix sociale.
L'infrastructure de pointe sert à compenser une faiblesse structurelle.
C'est un équilibre très précaire.
Un autre équilibre précaire, c'est ce plan Digital Morocco 2030. C'est ambitieux, il y a des partenariats, mais la source elle-même soulève un risque.
La fracture numérique.
Voilà. L'accès à la 4G, c'est une chose. L'accès aux compétences pour l'IA, c'est autre chose. Et ça reste très inégal entre ville et campagne. Est-ce que ce plan ne risque pas de creuser encore plus les inégalités?
C'est le risque principal, oui. Si on déploie des technologies de pointe sans un plan d'éducation massif qui touche tout le monde, on ne crée pas une société numérique, on crée une société à deux vitesses.
Avec une élite urbaine connectée.
Et une grande partie du pays laissée pour compte. L'idée de connectivité pour tous, avec la baisse des taxes sur les smartphones, pour l'instant, ça reste plus un slogan qu'une réalité, quoi.
Et cette fracture interne, elle doit être encore plus inquiétante quand on voit le contexte international. Le monde a l'air de se tendre de partout. La cohésion nationale devient vitale, non?
Absolument. Une nation divisée est beaucoup plus vulnérable aux chocs extérieurs. Et les sources nous disent que des chocs, il y en a de plus en plus.
Oui, le tableau est assez sombre. On a Poutine qui dit que la Russie est prête pour la guerre, Trump qui ferme l'espace aérien du Venezuela.
Les plaintes des journalistes pour l'accès à Gaza.
L'accord de paix, qualifié de fragile, entre la RDC et le Rwanda.
Comment un pays comme le Maroc navigue là-dedans?
En appliquant la même logique. Se positionner comme un pôle de stabilité dans un monde instable. Plus le monde est chaotique, plus la stabilité a de la valeur.
Ah, je vois. La stratégie, c'est de dire aux investisseurs, aux partenaires, ailleurs c'est le chaos, ici, chez nous, c'est fiable, c'est stable, c'est une porte d'entrée sûre.
En fait, l'instabilité mondiale devient presque un avantage compétitif pour le Maroc. Ça rend son offre plus attractive.
D'accord. Donc si on fait le bilan de cette lecture, on a le portrait d'une nation qui fait des choix. Des choix très clairs. Le pragmatisme économique et la connexion au monde d'abord.
Oui, quitte à laisser certains chantiers sociaux ou sanitaires avancer un peu plus lentement pour l'instant. C'est ça. La tension fondamentale, c'est vraiment entre la construction du hardware de la nation, les ports, les aéroports, la fibre, et la mise à niveau de son software, les politiques sociales, la santé, la réduction des inégalités. C'est une excellente image, ça.
Et il est clair que le hardware avance aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus vite que le software.
Et ça nous laisse avec une question, une fois qu'on referme ces pages. On voit un Maroc qui investit massivement et avec succès pour devenir un hub, un carrefour, un lieu de passage pour les marchandises, les données, les gens.
L'ambition est là, elle est assumée.
Oui, de cette croissance et de cette connexion au monde ne font pas que transiter, mais qu'ils irriguent vraiment toute la société et qu'ils profitent à tout le monde et renforcent le tissu social de l'intérieur.